Oui. OK, donc la dernière fois, on a parlé de la première partie de ce verset, la partie en blanc, et on a pris beaucoup de temps pour parler de très peu de lignes. Et donc aujourd'hui, on va terminer le verset. Et juste pour vous rappeler un peu le contexte de ce que j'avais dit la dernière fois, on parlait du renouvellement et de la transformation qui vient quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, fait son œuvre en nous. Et c'est une transformation qui sert à quelque chose. Ce n'est pas simplement un petit relooking spirituel que maintenant, spirituellement, je suis super beau maintenant. C'est une transformation qui a un but, qui a un objectif. Alors, selon ce verset, ce qu'on voit là, cette transformation qui commence dans notre pensée nous donne la capacité de discerner la volonté de Dieu. D'accord? Ça, c'est là où on va dans cette transformation. C'est la capacité de discerner, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alors, la volonté de Dieu, c'est vaste comme sujet. On pouvait parler des heures, rassurez-vous, on ne va pas en parler des heures aujourd'hui. Mais la Bible montre, juste pour vous donner encore le contexte, la Bible nous montre que la volonté générale de Dieu est très simple et facile à discerner. Il n'y a rien de compliqué. Gail, tu peux passer au suivant, s'il te plaît. La volonté générale de Dieu, c'est que son nom, c'est-à-dire Dieu lui-même et tout ce qu'il représente, son nom soit honoré et que la gloire qui lui est due lui revienne. Si vous voulez la volonté de Dieu dans une phrase, bah, c'est ça. D'accord? Alors juste pour, parce qu'on n'a pas le temps de parler en détail de tout ça ce matin, ce que j'ai fait, j'ai fait juste une liste de versets qui montrent un peu ce principe-là. Et avec l'audio sur le site, il y aura un petit PDF, vous pouvez télécharger comme ça, vous n'avez pas besoin d'écrire une quinzaine de références, d'accord? Donc ça va être disponible sur le site. Mais parce que le temps est limité, on va aller directement à notre modèle fiable aujourd'hui. Notre modèle, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous donne l'exemple. Et ce que Jésus dit, il prie son Père, il dit que ta volonté soit faite. Oui, que ta volonté soit faite. Donc, c'est une prière, dans ce cas précis, il est en train de le prier face à des souffrances à venir, face à la mort, qu'il savait qu'il allait vivre et tout ce qui entraînait cette mort, cette séparation de Dieu, il savait que ça allait être très, très difficile. Mais il priait que ta volonté soit faite et non la mienne. Alors, l'œuvre de Jésus sur terre, c'était la réconciliation de la création avec son Créateur. Et plus particulièrement pour nous, c'était la réconciliation de l'humanité avec son Père. Mais Jésus, il voyait ça un peu plus grand. Il savait que, voilà, la réconciliation, ça c'était son œuvre. Mais Jésus, quand il pensait à ce qu'il faisait, il avait un objectif plus grand qui correspond avec ce que je viens de dire. Il dit, j'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Pour Jésus, ce qu'il était en train de faire, ce qu'il a vécu pendant ses années de ministère, c'était pour la gloire de son Père. Il n'était pas préoccupé de sa propre gloire, il se préoccupait de la gloire de son Père. Et tout ce qu'il faisait jusqu'à la mort, c'était pour la gloire, pour faire connaître la gloire de son Père, de notre Père. Et la volonté du Père pour Jésus, c'est la même volonté qu'il a pour nous. Dieu ne nous confie pas à tous la même œuvre, à chacun sa tâche. On ne fait pas tous ce que Jésus a fait. On ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Mais chacun a sa tâche pour faire connaître la gloire de Dieu. Donc, la volonté générale, rendre gloire à Dieu, ce n'est pas difficile à comprendre. Je ne sais pas pour vous, moi, dans ma tête, oui, c'est clair. Il faut que je rende gloire à Dieu. Alors, ce qui nous pose le plus de difficultés parfois, c'est discerner sa volonté pour notre vie de tous les jours. C'est un peu plus compliqué quand même. Je ne sais pas pour vous, moi je trouve ça un peu plus compliqué parfois. Qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est ce que nous allons regarder dans un peu plus de détails ce matin. La volonté générale, c'est bien, on a compris. C'est la gloire de Dieu. Mais de jour en jour, de façon quotidienne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui aimerait connaître la volonté de Dieu pour la vie? Oh, que la moitié, vous m'étonnez. je ne sais pas pour vous, moi j'ai envie de connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Je sais que ça va être magnifique. Ça va être parfois un peu compliqué, j'en suis sûre. Mais je pense qu'au fond de nous, on a envie de savoir qu'on fait ce que Dieu veut. Ah oui, genre Antonia, elle le veut. Elle le veut. Mais combien d'entre nous, lorsqu'on pense à la volonté de Dieu pour notre vie, on a tendance à penser à la prochaine étape de notre vie? C'est ce qui va se passer ensuite. C'est après. C'est voilà, un peu plus tard. La volonté pour l'année prochaine, la volonté pour dans 10 ans. D'accord? On a tendance parfois à penser à la volonté de Dieu en termes de, voilà, l'avenir. Et pendant pas mal de temps, personnellement, moi j'ai confondu l'idée de connaître la volonté de Dieu pour ma vie avec l'idée de connaître mon avenir. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On veut connaître sa volonté, par exemple, pour quand j'aurai terminé mes études, si vous êtes étudiant. Quand j'aurai trouvé un travail. Ça va être où mon travail après ce que je suis en train de faire en ce moment. Quand j'aurai pris ma retraite, la volonté pour ma vie, ce sera quoi plus tard? Où est-ce que Dieu va me mener, me diriger? On voit souvent la volonté de Dieu pour nos vies en termes d'un appel, un métier par exemple, ou un service. Dieu m'appelle à devenir jardinier, Dieu m'appelle à devenir pasteur, Dieu m'appelle à devenir, à devenir, à devenir. Mais c'est toujours dans cette idée de devenir. C'est futur. On n'est pas encore là et on va y aller. Dieu m'appelle à quitter mon pays. Et aller ailleurs pour lui. C'était mon cas. Donc d'une part, ce n'est pas faux. Bien sûr, ce n'est pas faux. Parce que Dieu, il sème les graines d'un rêve en nous. Parfois longtemps avant l'aboutissement de ses rêves. J'avais 14 ans ou 15 ans, je ne me souviens plus exactement, quand Dieu a semé la graine dans ma vie, qui m'a poussé 18 ans plus tard de quitter mon pays pour venir ici. Donc ça faisait quand même 18 ans de cultiver, d'arroser, de se préparer. Il m'a donné un rêve. Donc il donne des rêves. Il fait évoluer nos rêves parfois en autre chose. On commence avec un rêve et puis au fur et à mesure, Dieu le travaille. Et il réoriente un tout petit peu. Parfois, il nous demande d'abandonner un rêve qui ne vient pas de lui. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parfois. Parce qu'il veut le remplacer avec un rêve qui vient de lui. Donc cette idée de rêve, c'est tout à fait bien, c'est tout à fait correct. Mais il ne faut pas confondre ça avec la seule façon par laquelle Dieu manifeste sa volonté pour nos vies. Si cette idée de connaître ce que Dieu veut pour notre avenir, si cette idée nous consume, ça devient problématique. Parce que vous savez, la Bible parle très peu du plan de Dieu pour toi et moi, pour demain. Par contre, elle donne pas mal de détails sur la volonté de Dieu pour toi et moi, pour aujourd'hui. Et Jésus et l'apôtre Jacques, dans deux endroits différents, nous donnent un avertissement des dangers de nous perdre trop dans nos projets d'avenir, dans nos projets du futur. Que ce soit un bon projet ou un mauvais projet, il faut qu'on fasse attention. D'abord parce que Jésus nous disait, il y a le problème de l'inquiétude. Dans le verset très connu, en Matthieu 6, Jésus nous dit, « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » Et toutes ces choses, donc il parle des choses pratiques de la vie, vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est un verset que je pense que presque tout le monde a entendu à un moment ou à un autre. C'est très facile à dire et c'est moins facile à faire. Alors on a tendance à s'inquiéter un peu pour le lendemain. On ne sait pas ce qu'il y a. Et Jésus, quand il dit ça, il parle dans un contexte des gens qui allaient prêcher, qui allaient faire l'œuvre de Dieu. Donc il n'est pas en train de casser l'idée de faire de bonnes choses. C'était un bon projet. Mais pour les disciples, le lendemain, ce n'était pas la volonté de Dieu pour eux. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on fait avancer le royaume de Dieu. C'est aujourd'hui qu'on répond à la volonté de Dieu. Parce que si on ne répond pas aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui dit que demain, je vais répondre à la volonté de Dieu? Il faut commencer là où on est. OK? Parce que demain, ce sera un nouvel aujourd'hui, avec ses défis et tout le reste. Donc, il faut garder une perspective saine par rapport à ça. Alors Jacques, il est un peu plus costaud dans ce qu'il dit. Il dit, savez-vous ce que demain vous réserve? Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. C'est fort quand même. C'est fort. Il y a un théologien qui s'appelle Jerry Sitzer, que j'aime beaucoup. Je lis pas mal de ce qu'il écrit. Et il souligne le point très important ici que Jacques est en train de faire. Il écrit, si nous avons un problème avec la volonté de Dieu, ce n'est pas en général à cause d'un manque de connaissance de la volonté de Dieu. C'est plutôt que nous avons du mal à faire ce qu'on sait déjà être la volonté de Dieu. Okay, je répète ça. Ce n'est pas en général notre problème avec la volonté. Ce n'est pas qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu. C'est qu'on a du mal à faire ce qu'on sait déjà être la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment chaque chose dans son temps. Ce que je sais déjà être la volonté de Dieu, je le fais. Si je ne le fais pas, Jacques, il dit, bah, ça c'est un péché. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Au sérieux. De ne pas se perdre trop dans l'avenir pour qu'aujourd'hui on ne fasse pas ce qu'il faut faire. D'accord? Parfois on dit à Dieu, oh Dieu, donne-moi une réponse par rapport à ce projet que j'ai pour l'avenir. Et Dieu, en fait, il nous dit, bah, et aujourd'hui, on est où avec ma volonté? Dieu ne va pas. La Bible dit que Dieu se confie à ceux qui le révèrent. Ça veut dire que s'il voit déjà qu'on est en train d'être obéissant, il ne va pas avoir de problème à nous confier ses plans pour ce qui va venir. Mais si aujourd'hui on n'est pas obéissant, si on n'est pas en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, bah Dieu, il n'a aucune raison de nous expliquer ses plans pour l'avenir. Parce que bah, à quoi ça sert de vous dire? Parce que déjà, ce que vous savez maintenant, vous n'êtes pas en train de le faire. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ce que j'aimerais vous encourager à faire aujourd'hui, c'est regarder un peu votre vie. Est-ce que dans chaque endroit où je sais chaque partie de ma vie, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qui est bien de faire, est-ce que je suis en train de le faire? Et ça, c'est notre point de départ pour discerner la volonté de Dieu dans nos vies. D'accord? Parce que si nous sommes fidèles à faire ce qu'on sait être bien, être bon aujourd'hui, c'est Dieu qui s'occupe de nos lendemains. Et c'est Dieu qui s'occupe de là où on ira à l'avenir, ce qui va se faire plus tard. Ok, Gaël, tu peux avancer, s'il te plaît. Alors, ce que la volonté de Dieu n'est pas, parce que je pense que parfois on a une idée un peu faussée de la volonté de Dieu. Alors, la tradition dit que la volonté de Dieu pour ma vie consiste en une tracée précise que je dois suivre vers l'avenir. Et Dieu, il connaît la trace. Et en fait, il me laisse un petit chemin de miette de pain. Et moi, j'ai la responsabilité de suivre. J'ai le nez collé par terre presque pour trouver ces miettes de pain. Parce qu'il ne faut absolument pas que je rate une miette. Parce que ça pourrait être la miette cruciale. Okay? Il ne faut pas que ça se passe. Malheureusement, comme vous voyez, parfois les miettes sont assez faciles à trouver. Parfois, ça devient un peu plus compliqué. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand il neige? Oui, on a un peu de mal. Il y a des choses qui peuvent se passer qui font que les miettes de pain sont un peu trop éparpillées, peut-être. Et ce qui arrive dans ces moments-là, dans cette idée de ce que c'est la volonté de Dieu, c'est que je dois trouver des miettes de pain. Je dois, parfois, s'il y a plusieurs miettes de pain un peu partout, je dois discerner lequel des pistes possibles et le bon. Et quand et si je fais le bon choix, j'aurai droit à la faveur de Dieu et la réussite dans la vie et tout ce qui va avec. Alors, le problème avec cette image de la volonté de Dieu, c'est que si je me trompe à un moment donné, c'est complètement fichu pour le reste de ma vie. Parce que je vais me trouver dans un labyrinthe de choix qui sont contre la volonté de Dieu. Parce qu'il y a 3 semaines, j'ai fait le mauvais choix. J'ai pris la mauvaise décision. Et le problème avec ça, c'est que ça ne correspond pas avec ce que la Bible dit de Dieu. Parce que la Bible parle de la grâce de Dieu pour quand on se trompe, quand on se perd. La Bible parle d'un Dieu qui est grand. Et qui travaille, qui œuvre dans des situations pour que sa volonté soit faite. D'accord? Donc, ça veut dire que Dieu, il a le pouvoir de nous remettre au centre de sa volonté au moment où on se tourne vers lui. Même s'il y a 3 semaines, on a raté un bout de pain, quelque part, par terre. Alors, bien sûr, quand on fait des choix, on est fait à la lumière de la Bible, on fait les choix en fonction de ce conseil de Dieu. Ce n'est pas qu'on fait n'importe quoi. Et puis, oh, ça va, Dieu va rattraper ça. Mais ce que je veux vous expliquer ce matin, c'est que la volonté de Dieu n'est pas rigide. Ce n'est pas ça et le reste, c'est fichu. Si vous n'avez pas fait ça, c'est fichu. Et je vais vous expliquer pourquoi on peut dire ça. Romains 8, versets 26-28. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs, il sait ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, on connaît le verset 28 par cœur. Dès qu'on commence à parler de toutes choses, voilà, tout le monde est dedans. Et oui, toutes choses concourent au bien. Mais il faut connaître le contexte de ces versets. Les 2 versets qui le précèdent sont très importants. Parce que ce qui est marqué là, c'est que face à des décisions dans la vie, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité qui nous transforme. On a vu ça la dernière fois. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse et dans notre manque de discernement et d'intelligence parfois. Parce que ce verset dit « Je veux plaire à Dieu, je veux faire ce qui est parfait, malgré ma connaissance imparfaite. Mais je ne sais pas prier, donc je prie dans l'esprit. Et Dieu, il voit mon cœur. Il voit ma préoccupation primordiale pour son règne, pour son honneur, pour sa justice, pour son nom. Ça, c'est notre orientation. Si on a ça dans notre cœur, l'esprit peut travailler avec ça. Et c'est vrai que souvent, Dieu nous laisse un choix dans les décisions de la vie. Nous avons un Dieu qui sait faire des choix. Nous sommes créés à son image. Ça veut dire qu'on a la possibilité de faire des choix. On n'est pas programmé, on n'est pas les robots. D'accord ? On peut faire les choix. On peut faire les bons choix, on peut faire les mauvais choix. Mais on peut faire les choix. Et il y a les bons choix qui existent. Et Dieu, souvent, il me laisse un choix dans une situation. Mais s'il y a un chemin qu'il ne faut vraiment pas que je rate, il va faire en sorte que ce choix devienne clair. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. On voit ce principe dans la vie de l'apôtre Paul, en Actes 16. Alors Paul, on sait, il faisait des grandes tournées de prédications. Il passait de ville en ville, il allait un peu ailleurs, un peu partout, pardon. Parce que prêcher, déclarer le royaume de Dieu, le règne de Dieu, Jésus, ce que Jésus a fait, la réconciliation, ça c'était sa passion, c'était sa préoccupation. Il voulait faire ça, il voulait que rien ne l'empêche de parler de Dieu et de ce que Dieu a fait. Et la Bible nous laisse penser qu'il n'y avait rien de mal dans sa façon d'organiser ses tournées. Mais il y a un cas assez exceptionnel dans le livre d'Actes. Et avec son équipe, Paul, il voulait aller en Asie. Il voulait en aller en Asie pour prêcher. Donc je pense que vous êtes d'accord, aller en Asie pour prêcher, c'est pas mauvais. Ça va? C'est bon? C'est agréable à Dieu? Oui, donc voilà, pour Paul, il n'y a aucun problème. Je vais aller en Asie. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'il essaie d'avancer dans cette partie de sa grande tournée de prédication, il y avait les portes qui fermaient. Il y avait des problèmes, il y avait des blocages. Il y a même un moment où le Saint-Esprit lui a dit « Non, tu ne fais pas ça ici. » Ce qui est un peu bizarre quand même, parce que Dieu nous appelle à prêcher. Donc, pourquoi est-ce que l'Esprit dit non à ce moment-là? On n'a pas de raison de croire que Paul n'avait pas prié avant de partir. Ce sera contre tout ce qu'on sait de Paul qui ne prie pas avant de partir en mission. C'était un homme de prière. Il savait chercher la face de Dieu. Il savait chercher la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'imagine qu'à un moment donné, Paul, il est devenu un peu frustré quand même. Parce qu'il essaie de faire ce que Dieu l'appelait à faire et ça ne marche pas. Et pourquoi? Mais il ne lâche pas, il ne se décourage pas. Parce que bon, c'est Paul quand même, il persévère. Donc il dit, bon, allez, on va aller en Bithynie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Des blocages, des impossibilités, des empêchements. Alors là, à ce moment-là, Paul, il dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu veux? J'essaie de faire ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Et il prie. Mais il ne se décourage pas. Et il se met en route pour aller ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Dieu lui parle pendant la nuit. Et en Actes 16, 9 et 10. Donc là, il a eu plein de refus jusqu'à ce moment-là. Et puis là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt en orange, pour une très bonne raison, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Là, c'était la volonté de Dieu pour aujourd'hui. C'est, bon, je vous dis ça maintenant, Allez, partie. Et leur réponse, la réponse de l'équipe de Paul, il y avait Paul et Silas et Luc, je crois, et plusieurs autres, c'était « Nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine quand nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. » Ils sont très perspicaces. Moi, je pense aussi que si moi j'avais une vision de la nuit, comme ça, je pense que moi aussi j'aurais la certitude que c'est là où Dieu veut que j'aille. Donc c'est une réponse quelque part aux frustrations de Paul qui cherchait à faire ce que Dieu voulait. Alors Paul voulait faire ce qui est bon. Il voulait faire ce qui plaisait à Dieu. Mais Dieu a dû lui révéler à ce moment-là ce qui était parfait pour aujourd'hui. Parce qu'il y a les choses qui sont bonnes, qui plaisent à Dieu, mais pour aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et dans ce cas-là, on voit très clairement que Dieu voulait pas, il ne voulait pas que Paul rate cette visite en Macédoine. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Parce que Dieu, il dit, il ne faut vraiment pas que tu rates cet endroit en particulier. Et je voyais que ce n'était pas sur ton itinéraire, donc voilà, j'interviens. J'interviens, parce qu'il faut que tu ailles là-bas. Qu'est-ce qui se passe en Macédoine? Déjà, Paul, il doit faire demi-tour. Parce que si Bithynie, c'est par là, Macédoine, c'est par là. Donc, ce n'était pas juste une petite réorientation, c'était carrément sens inverse. Il doit faire demi-tour et il se dirige vers... Il y a quelqu'un qui sait, par hasard? C'est un lieu très important. Macédoine. Il y avait une ville en particulier et la ville, c'était Philippe. Philippe. Et quand il est parti là, après cette vision-là, c'était pour sa première rencontre avec les Philippiens. Et le résultat de cette rencontre, à terme, c'était quoi? C'était la lettre que Paul a écrite aux Philippiens. Et vous pouvez imaginer, si on n'avait pas la lettre de Philippiens dans la Bible, ce sera dommage. Parce que c'est, pour moi en tout cas, c'est la lettre la plus encourageante que Paul a écrite. Et Jésus, il savait que plus tard, on aurait besoin de cela. Donc il dit, Paul, il ne faut pas que tu rates Philippe là. Il y a des gens, il faut que tu rencontres là-bas. Parce que voilà, tu vas avoir une relation avec ces personnes-là. Tu vas les enseigner, tu vas les encourager. Et cet encouragement que tu vas leur donner, ça va être utile plus tard. Il n'a pas dit tout ça à Paul. Il a dit simplement... Macédoine, c'est un bon départ. Paul ne savait pas où ce choix allait le mener à terme. Nous, on voit avec la possibilité de voir un peu en recul de ce qui se passe, mais Paul, il ne savait pas. Tout ce qu'il savait, c'est que si Dieu le veut, je vais le faire. Et donc, il est parti là-bas. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que là-bas, Paul et Silas, ils ont été battus, ils ont été emprisonnés, ils ont bien galéré. Alors ça, c'est un très bon exemple d'un souci du lendemain qu'il vaut mieux pas connaître en amont. Parce qu'on peut dire, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Tu vas aller là-bas, tu vas être battu, tu vas être emprisonné, tu vas... Oh, gloire à Dieu! Moi, peut-être je suis un peu moins spirituelle que certains d'entre vous, mais ça ne me remplit pas de joie. Donc, parfois, Dieu, il nous dit simplement ce qu'il faut savoir pour prendre le prochain pas. Parce que s'il racontait tout, peut-être ça nous ferait peur. D'accord? Et Dieu, il ne veut pas qu'on s'inquiète. À ce moment, c'est vrai, ce n'est pas agréable d'être battu et d'être emprisonné. Mais qu'est-ce qui se passe dans le prison? Il y a le gardien. Il y a l'histoire de Paul et Silas qui chantent dans le prison. Et puis, voilà, c'est le réveil dans le prison. Donc, même dans les situations les plus difficiles, Dieu, il était à l'œuvre. C'était sa volonté. Et donc, on sait que Dieu ne voulait pas que Paul rate cette occasion-là. Mais Paul n'a pas eu un rêve à chaque fois qu'il fallait partir dans une ville. Il a planifié ses tournées, il a prié avant, bien sûr. Mais ce n'était pas à chaque fois. Mais il y avait vraiment cette ville-là, il ne fallait pas qui le loupe. Il ne fallait pas, parce qu'il y avait des conséquences à très long terme. Et donc, on peut avoir la même confiance en Dieu. Si notre cœur, c'est de faire ce que Dieu veut, si notre préoccupation première, c'est le royaume de Dieu, c'est sa gloire, c'est qu'il soit glorifié à travers tout ce qui se passe dans nos vies. Si ça, c'est vrai pour nous, Dieu ne va pas nous permettre de rater les choses essentielles pour notre vie. Et on peut vraiment avoir confiance en Dieu pour cela. Donc pour nous, si on veut discerner la volonté de Dieu, la première chose, c'est toujours vérifier tes priorités. Est-ce que ta priorité, est-ce que c'est le règne de Dieu, le royaume de Dieu, la gloire de Dieu? Est-ce que toi, tu passes en seconde place derrière Dieu et sa gloire? Ça, c'est important. Parce qu'on sait que ça, c'est la volonté générale de Dieu. On ne peut pas avancer dans une volonté particulière, pour moi, si on n'a pas déjà respecté la volonté générale de Dieu. Donc si c'est le cas, et si on est prêt à obéir, c'est une chose de connaître la volonté de Dieu, comme on disait, c'est une autre chose de répondre en disant, bon, j'y vais, je le fais. Alors on peut avoir confiance en Dieu. On ne va pas rater sa volonté pour notre vie. Parce que vous savez, Dieu, il a plus envie que nous qu'on fasse sa volonté. Parfois, on a l'impression, en écoutant les gens, qu'il faut persuader Dieu, il faut convaincre Dieu qu'on veut faire sa volonté. Et Dieu, il dit, mais c'est ce que je veux pour vous. Je veux que vous fassiez ma volonté parce que je sais que vous allez être bénis en faisant ma volonté. Donc Dieu, il n'essaie pas de cacher ces choses-là. Il veut qu'on avance pour lui. Donc on peut lui faire confiance. Et puis on a le message clé de notre verset principal. C'est que l'Esprit est là. C'est l'Esprit qui fait la transformation en nous. Si on a ouvert notre cœur au Saint-Esprit de rendre complet, mais de nous amener vers la perfection dans notre transformation, on peut faire confiance au Saint-Esprit de nous aider dans nos faiblesses, quand on a vu tout à l'heure. On peut faire confiance au Saint-Esprit de nous aider à prier quand on ne sait pas quoi prier. Et à travers cette façon-là de nous parler, de préparer notre cœur pour recevoir ce que Dieu veut nous dire. Donc, avec cette transformation en cours par le Saint-Esprit, on peut discerner la volonté de Dieu. Ça, c'est le message de Romains 12, verset 2. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On écoute. On écoute Dieu et on écoute aussi les conseillers sages que Dieu a mis autour de nous. Dans les décisions qui peuvent être un peu plus difficiles à prendre dans la vie, c'est bien de demander l'avis des gens qui ont de la sagesse de Dieu. On n'est pas seul à prendre ce genre de décision. On peut se faire entourer. C'est pour ça que c'est tellement important de faire partie de la famille de Dieu et d'avoir cette communauté autour de nous. Parce qu'il y a les choses qui sont difficiles dans la vie. On a besoin des voix sages autour de nous pour parler dans nos vies, pour nous dire, est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que tu as réfléchi par rapport à ça? Est-ce que tu as pris en compte ceci, cela? Donc ça, c'est important. Donc on prie, on écoute, on réfléchit, on prend du temps pour les grandes décisions de la vie. On ne fait pas ça de façon impulsive. On prend son temps. OK? On prend son temps, on réfléchit. Mais prendre son temps, ce n'est pas être dans le déni d'avoir une décision à prendre. Ce n'est pas la même chose. Si Dieu nous dit d'attendre, on attend. Mais là, on va voir que parfois, il y a les choix qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Mais on peut faire confiance à Dieu. Et Dieu, il va nous parler pour pouvoir faire ces choix d'aujourd'hui. Dieu, il peut nous parler de plusieurs façons. Ça peut être simplement un sentiment de paix lorsqu'on réfléchit à quelque chose. Et on, ouais, je suis en paix par rapport à ça. Ça peut être une image qui vient dans notre tête pendant la prière. Ça peut être une conversation avec quelqu'un. Ça peut être un passage lorsqu'on est en train de lire la Bible. Et puis, il y a un verset qui fait zing, zing, zing. Ça m'arrive parfois. Ça peut être un verset que j'ai lu plusieurs fois. Et puis, tout d'un coup, c'est wouh. Il y a une nouvelle vie dans ce verset-là par rapport à ma situation. Là, c'est Dieu qui est en train de révéler sa volonté pour nous. Ça peut être une idée qui nous semble tellement pleine de vie que ça ne peut venir que de Dieu. Il y a les choses, il y a une sorte d'enthousiasme qui vient et on sait que ça vient de Dieu. Il y a une joie quand on y pense, il y a quelque chose qui se passe en nous. Donc Dieu, il peut révéler sa volonté de plusieurs façons. Mais quand on a des choix à faire, on peut, et le dernier point, on peut être confiant pour l'avenir. On n'a pas besoin d'avoir peur. Si Dieu, si le royaume, c'est notre première préoccupation, on n'a pas besoin d'avoir peur pour l'avenir. Alors, le royaume de Dieu nous rend juste, nous donne la paix et la joie, selon Romains 14, 17. Et vivre la volonté de Dieu, ce n'est pas censé être une source d'inquiétude ou de stress, quand nous sommes paralysés parce qu'on a peur de mal choisir. Ça, je peux vous dire tout de suite, ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'on soit dans ce paralysie devant un choix et on ne sait pas quoi faire, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Parfois, si on n'a pas une réponse claire, c'est simplement parce que Dieu nous laisse le choix. Alors, il y a des choses où un choix, c'est évident, c'est clair. Voler ou ne pas voler, à votre avis? On vole ou on ne vole pas? On ne vole pas, oui. Je pense que la Bible est assez claire dessus. Honorer ou non mes parents? Je sais que la Bible dit que je dois honorer mes parents. Oui, même s'ils ne sont pas honorables. La Bible me dit que je dois honorer mes parents. Coucher avec qui je veux maintenant, plutôt qu'attendre le mariage. Là, ce sont des choix où si on a même un minimum de connaissance de la parole de Dieu, on connaît la réponse. Ce n'est pas difficile. Mais le problème, c'est que nos choix dans nos vies sont rarement aussi, aussi simples. Je vous donne juste quelques exemples. Faire les vœux post-bac, BTS ou DUT, qu'aurait fait Jésus? Okay. C'est un choix, c'est un choix. La famille grandit, on doit déménager, mais habiter dans ce quartier-ci ou ce quartier-là, dans quel quartier se trouve Dieu? Okay. Travailler dans cette boîte ou m'installer à mon compte? Ouvrir dans la construction ou éboueur? Quel métier plaît le plus à Dieu? On rigole là, mais ce sont les choix que, voilà, moi j'ai dû faire mes vœux post-A-level. Moi j'ai dû choisir un métier. Moi j'ai dû. Et ce n'était pas toujours, voilà, écrit sur le mur, Sandy, tu vas être. Moi j'aurais bien aimé que ce soit le cas, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et j'ai prié et j'ai cherché Dieu. Et Dieu, il connaissait mon cœur. Alors, ce qui va vous faire vraiment rigoler, c'est que la seule chose que j'ai dit à Dieu que je ne voulais pas faire, c'est être prof. Que ta volonté soit faite et pas la mienne. Non, mais je suis très contente maintenant en étant prof. Mais à l'époque où je faisais des choix, si c'était laissé à moi, aujourd'hui, je ne serais pas prof. Ce qui montre que Dieu, il fait évoluer nos rêves, parfois. Et tant mieux, et tant mieux. Mais ce sont des genres de choix, on est face à ces choix tous les jours, presque. Bien sûr, on demande à Dieu son avis. Je ne suis pas en train de dire, voilà, on fait ces choix comme ça. On demande à Dieu Et si Dieu nous donne une réponse claire, on obéit. Si je dis à Dieu, ce quartier-là ou ce quartier-là, si Dieu me dit, ce quartier, moi je ne vais même pas chercher dans l'autre quartier. Parce que je sais que pour une raison que peut-être pour l'instant je ne comprends pas, Dieu veut que je sois là. Peut-être qu'il y aura des rendez-vous ou autres, les choses qui vont se passer dans ce quartier, il faut que je sois là. Mais parfois, Dieu nous donne un choix. Et mon expérience, ton avis, parfois Dieu m'a parlé très clairement dans certaines situations. Mais il y a eu d'autres moments dans ma vie où j'ai dû faire des choix et j'ai demandé à Dieu et j'ai l'impression qu'il m'a dit ce qui est bon, ce qui me plaît, ce qui est parfait, c'est que tu me demandes mon avis en premier. Ça, c'était ma volonté, qu'avant de prendre une décision, tu viens vers moi. Maintenant qu'on est clair sur tes priorités, tu peux choisir. Parce que finalement, notre choix d'être dans la volonté ou pas de Dieu, ce n'est pas le choix de Nancy ou Paris. Ce n'est pas le choix de deux endroits. C'est est-ce que je choisis Dieu ou est-ce que je ne choisis pas Dieu? Et bien sûr, Dieu il va nous diriger là où il faut qu'on soit dirigé. Mais notre préoccupation primordiale, c'est le royaume de Dieu. Et à partir de ce moment-là où on a mis le royaume de Dieu là où il faut que ce soit dans nos priorités, là, la volonté de Dieu va être vécue dans nos vies. Donc, il dit, tu peux choisir parce que moi, je suis puissant. Et moi, je suis soucieux de ma gloire. Et je fais concourir toutes choses au bien de ceux qui, ouais, de ceux qui m'aiment, qui ont été appelés selon mon plan. D'accord? Si on est appelé, si on aime Dieu, et si ça c'est quelque chose qui gère nos choix, Dieu il fait en sorte que les choses concourent au bien. Pour une très très bonne raison, il n'est jamais trop tard pour te positionner au centre de sa volonté pour ta vie. Il n'est jamais trop tard. On n'est pas sur un chemin de miettes de pain ou parce qu'il y a 3 ans, je me suis trompée. Je fais un mauvais choix. On n'est pas exclu d'entrer dans la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu veut nous dire, c'est « Alors, aujourd'hui, on est où avec ma volonté ? Est-ce que je suis à la première place ?» Dans ce cas-là, là où tu es au centre de ma volonté. Ce qui s'est passé avant, je peux faire concourir ces choses au bien. Parce que tu m'aimes et tu es appelé à faire partie de mon plan divin. Et ça, peu importe les bêtises qu'on a faites en avant. Peu importe, et je sais qu'il y en a ici qui ont fait des bêtises. Moi, parmi tout le monde. Et c'est la grâce de Dieu pour nous que Dieu ne nous laisse pas dans une situation où on est en dehors de sa volonté. Dieu veut qu'on rentre dans sa volonté. Et donc aujourd'hui, on a toujours un choix à faire. Où est ma priorité? Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je choisis Dieu? Est-ce que je choisis autre chose? Et si on choisit Dieu, sa volonté va découler de notre choix de le mettre à la première place. J'aimerais juste terminer avec une pensée de David. On a beaucoup parlé de David la dernière fois. Donc on connaît un peu son histoire, ce qu'il a vécu. Mais on sait que David, il avait la pensée renouvelée. Et cette pensée renouvelée, ça a suscité en lui une confiance de béton en Dieu. Mais vraiment une confiance de béton. Quand on voit tout ce qu'il a vécu, on dit, mince, il avait quand même confiance en Dieu. Et c'est vrai. Et il avait d'abord la confiance en Dieu en ce qui concerne l'avenir. Il parle assez souvent de ça. Un avenir inconnu, mais il priait toujours, Dieu, que tu sois honoré dans ma vie. Que tu sois honoré. Mais il avait aussi la confiance pour maintenant. Qu'aujourd'hui, Dieu guide mes pas. Aujourd'hui, Dieu guide mes pas, pas à pas. Et puis, il y a deux versets que j'aimerais vous montrer juste pour terminer. Psaume 31, il dit « À cause de ce que tu es », dans la version Louis II, c'est marqué « À cause de ton nom », c'est-à-dire à cause de toi, qui tu es, parce que tu es Dieu. « Tu me guideras et tu me conduiras ». Ce n'est pas à cause de moi qui me guide, c'est à cause de lui. C'est pour sa gloire. Il ne veut pas que sa gloire parte ailleurs. Donc, il va me guider parce qu'il veut que je le rende gloire. Donc, on peut avoir confiance. Psaume 23, c'est la même idée. Pour l'honneur de son nom, il me mène comment ? Pas à pas, sur le droit chemin. Et ce n'est pas à cause de moi qu'il le fait, c'est à cause de lui. C'est pour son nom, c'est pour sa gloire, c'est pour que lui, il puisse recevoir toute la gloire qui est due. D'accord ? Donc on n'est pas égoïste dans ceci, on est focalisé sur Dieu. C'est Dieu, guide-moi, mais guide-moi pour toi. Ce n'est pas guide-moi pour moi. Guide-moi pour ta gloire. Il y a juste une... David, il est en train de dire, en fait, Dieu, je connais ta volonté. Tu veux que ma vie te rende gloire et que tu sois honoré. Il est donc impensable que tu ne me guides pas. C'est impensable que Dieu ne nous guide pas, qu'il ne nous montre pas le chemin. Et Dieu, il va nous révéler ce qu'il faut qu'on sache. Pour le jour, pour aujourd'hui, pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction, pour qu'il soit honoré. Mais c'est pas à pas. Et peut-être on ne va jamais voir très loin dans l'avenir. Il y a les personnes qui Dieu a déjà parlé de quelque chose bien en avance. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, pour notre vie quotidienne, c'est jour après jour après jour, et on avance tout doucement, et on avance pas à pas, et on sait qu'on se dirige vers ce que Dieu a pour nous au bout du chemin. Et une dernière pensée, aussi du psaume 31, « Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. » Mes destinées sont dans ta main. Et ça, je peux dire avec confiance parce que c'est toi qui es mon Dieu.